Ah, comme j'ai choisi le titre, ce mystère qui est l'amour, parce que, évidemment, au fond, l'amour est un mystère. C'est une chose qui nous comprend et donc nous ne pouvons pas comprendre. L'amour nous entoure. Ce n'est pas nous qui possédons l'amour, on est possédé par l'amour. L'amour est plus grand que nous, pour ainsi dire. Cependant, ça ne nous empêche pas quand même de réfléchir sur certains aspects de la chose et de démystifier certaines conceptions, peut-être, qui entourent ce thème. Et c'est moi qui ai fait lire le texte que Kathleen a lu tout à l'heure. C'est le passage d'Abdu'l-Bahá à propos de l'amour. Et vous voyez toutes sortes de différents aspects de l'amour qui est mentionné dans ce passage. Alors, une des premières choses que j'aimerais souligner, c'est ce que Abdu'l-Bahá dit que l'amour est la loi. L'amour est la plus grande loi qui régit ce puissant et céleste cycle. Alors, dans un autre passage que je n'ai pas dégagé pour ce soir, mais je vais juste référer, en parlant de la révélation progressive, Abdu'l-Bahá a d'abord dit que Dieu est souverain et qui peut changer n'importe quelle loi qu'il veut. Que chaque fois que la manifestation vienne, la manifestation est mandatée de changer n'importe quelle loi qu'il juge opportun à changer. Non, mais il ne faut quand même pas confondre l'autorité de changer et le fait de changer. Parce qu'Abdu'l-Bahá continue en disant, mais la loi d'amour est éternelle et ne sera jamais changée. Autrement dit, la loi d'amour est régie par la volonté de Dieu. Dieu pourrait le changer s'il voulait. Il n'est pas lui soumis à la loi, c'est lui qui crée la loi d'amour. Il n'est pas soumis à la chose. Dieu est libre. Mais Abdu'l-Bahá dit, en fait, Dieu ne changera jamais cette loi d'amour. Dieu a choisi de maintenir cette loi depuis toujours et à jamais, à toujours. Et il dit, en anglais, il dit, it is the one law, c'est la seule loi de Dieu qui ne sera jamais changée, qui serait éternelle. Maintenant, on ne parle pas beaucoup de loi par rapport à l'amour, n'est-ce pas? En fait, si on prend les mots de Carmen, elle dit que l'amour est enfant de Bohème, il ne connaît pas de loi, n'est-ce pas? C'est la vision que nous avons souvent de l'amour, que l'amour ne connaît pas de loi, que c'est spontané, que c'est diffuse. Ça ne connaît pas de loi. Mais ce n'est pas l'optique qui est donnée dans les écrits Bahá'í. L'amour est infini, ça c'est très clair. Dieu est amour, comme Jésus l'a déjà dit. Dieu aussi est la seule source d'amour. C'est-à-dire, ça c'est très important. Nous ne pouvons pas créer de l'amour. Nous pouvons être sujet à l'amour, nous pouvons devenir l'instrument de l'amour, mais nous ne pouvons pas créer de l'amour. La seule source d'amour, c'est Dieu. Mais Dieu est infini, l'amour est infini, il n'y a pas de limite à l'amour. Cependant, Dieu a choisi, selon les écrits Bahá'í, de rendre l'accès à l'amour conditionnel sur certaines lois. Il a parlé des forces qui régissent l'univers, n'est-ce pas? On peut penser à la gravitation, à la force électrique entre les atomes et les molécules. Ce sont des manifestations de l'amour, comme Abdu'l-Bahá l'a dit. L'amour est donc une force attractive. C'est une force attractive et en physique, j'ouvre une parenthèse, mais c'est quand même intéressant. En physique, il y a quatre forces fondamentales. Certaines de ces forces sont attractives, d'autres sont répulsives et d'autres ont une forme attractive et répulsive. Mais la gravitation a seulement une forme attractive. La gravitation n'a pas de forme répulsive. L'électricité, oui, comme nous savons que deux particules qui sont chargées de façon similaire se repoussent. Donc la force électrique peut être répulsive aussi bien qu'attractive. Mais la force de gravitation, non, c'est sûrement seulement attractive. Alors, Abdu'l-Bahá dit la même chose par rapport à l'amour. L'amour est dans son essence une force attractive. Ou dit d'une autre manière, l'amour ne peut pas créer de différend entre les gens. L'amour ne peut pas être cause de désunion ou de repoussement, si vous voulez, pour répondre à cette chose. Maintenant, nous savons tous par notre expérience que l'expérience de l'amour peut être quand même liée à la douleur. Et si l'amour est une force attractive, et si c'est une force bénéfique, et si, comme Abdu'l-Bahá dit encore, je cite, que c'est la seule porte vers la félicité dans ce monde et dans l'autre. Il dit, l'amour est le seul moyen d'obtenir le véritable bonheur, soit dans ce monde, soit dans l'autre. On peut avoir un bonheur relatif, temporaire, illusoire, mais il dit, l'amour est le plus grand des droits, l'unique pouvoir qui relie les éléments. Je m'excuse, je voulais juste. L'amour est la seule. Est le seul moyen de procurer la félicité véritable en ce monde et dans l'autre. Donc, si l'amour égale bonheur, félicité, pourquoi est-ce que notre expérience de l'amour est souvent liée à la douleur, enfin au phénomène de rejet, etc. Abdu'l-Bahá explique cela. Il dit que toute la douleur que nous expérimentons vient de l'attachement. Et que l'attachement, ce n'est pas la même chose que l'amour, parce que l'amour est dans sa nature altruiste, donc ce n'est pas égoïste, tandis que l'attachement est égoïste. Dans l'attachement, on cherche quelque chose de l'autre. Et évidemment, nous les êtres humains, nous sommes tous imparfaits, donc il n'y a pas un être humain qui est capable d'être altruiste tout le temps, dans toutes circonstances. Nous avons tous des besoins qu'on cherche à satisfaire dans nos relations humaines et nous pouvons, ces besoins, la recherche de satisfaction de ces besoins peut bien sûr cohabiter avec un véritable amour, mais l'amour humain n'est jamais pur et sans aucun intérêt propre. Et Abdu'l-Bahá explique que c'est cet intérêt propre, cette dimension égoïste qui nous donne la peine dans l'amour. Ce n'est pas l'amour lui-même qui nous donne de la peine. Le véritable amour nous donne toujours le bonheur. Mais la douleur provient, comme j'ai dit, de l'attachement. Ça peut être l'attachement à son propre image, n'est-ce pas? J'élabore un tout petit peu là-dessus. Je pense que les êtres humains cherchent à s'associer. Ça, c'est évident, tout le monde est d'accord là-dessus. Les êtres humains cherchent à se rapprocher les uns des autres. C'est naturel. Mais il y a, je pense, ce que j'appellerais une distance sociale naturelle entre n'importe quel deux individus. C'est-à-dire, on est attiré l'un vers l'autre jusqu'au un certain point. Et si on essaie de se rapprocher au-delà de ce point, ça commence à avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que ça invoque une intimité qu'on n'est pas capable, on n'est pas suffisamment mature pour supporter. Encore une fois, cette douleur ne provient pas de l'amour, mais ça provient des limitations égoïstes des individus qui sont incapables de supporter une intimité au-delà d'un certain point. Alors je pense qu'on n'y pense pas beaucoup parce que je pense que chacun, dans nos relations, nous trouvons naturellement, inconsciemment, cette distance sociale avec laquelle on est confortable. Et cette distance est différente avec différentes personnes. On parle d'être plus proche de certaines personnes et moins proche d'autres personnes. Enfin, on utilise même les termes de distance. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Si ce n'est pas l'attachement, qu'est-ce que c'est? Alors, il se dégage des écrits que, entre autres, l'amour a au moins deux composantes. Un, c'est le souci du bien-être de l'autre. Et la deuxième composante de l'amour, c'est l'acceptation de l'autre. C'est la dimension inconditionnelle de l'amour. Donc, la première composante de l'amour est une composante active. Je suis activement concerné par votre bien-être. Je ne peux pas prétendre avoir de l'amour pour vous si votre sort m'est absolument indifférent, n'est-ce pas? Si j'ai aucun souci pour votre bien-être, en quoi est-ce que je vous aime, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Donc, le premier signe de l'amour, si vous voulez, c'est le fait qu'on est réellement concerné par le bien-être de l'autre personne. Donc, encore une fois, l'amour, dans ce sens-là, ce n'est pas la simple attraction. L'attraction peut amener à l'attachement, mais pas nécessairement au vrai souci pour le bien-être de l'autre. Donc, c'est l'altruisme, si vous voulez. C'est l'altruisme. L'autre composante est une composante passive, et c'est l'acceptation de l'autre. Ça veut dire que si on a cette composante de l'amour, alors on n'impose pas des conditions à l'autre pour que nous l'aimions. C'est-à-dire, nous aimons la personne pour ce qu'il est, pas pour ce qui n'est pas. Alors je prétends, et ça j'entre dans mes propres opinions, que le véritable amour est toujours à cause de et non en dépit de. C'est-à-dire que souvent on entend, voilà, Jésus a dit, voilà, nous a dit, tout le monde lui dit qu'il faut aimer tout le monde. Mais comment c'est Dieu d'aimer certaines personnes? Ils sont tellement difficile, etc., etc. Alors, les écrits, nous expliquent que l'amour est la réponse à la perception qu'on a de la valeur de l'autre. C'est pourquoi on aime être aimé, parce qu'on se sent valorisé. L'amour est une validation quand on vaut quelque chose. On n'aime pas une chose qui n'a pas de valeur, n'est-ce pas? Et on aime une chose parce qu'elle a de valeur. Donc, l'amour est basé sur une certaine forme de connaissance. C'est la connaissance qui précède l'amour, et cette connaissance est la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'autre, des qualités de l'âme de l'autre, du potentiel, ou comme Abdu'l-Bahá dit, l'image de Dieu dans l'autre personne. Alors, étant donné qu'aucun être humain n'est parfait, nous avons tous des limitations. Alors, si nous regardons que des limitations des gens, alors tout amour va être en dépit d'eux, n'est-ce pas? Je l'aime en dépit du fait qu'il a cette limitation, cette limitation, cette limitation. Et puis, ça devient difficile. Ça devient, à vrai dire, impossible. Parce que comment je peux aimer une chose qui n'est pas là? Comment est-ce que je peux aimer une qualité que la personne n'a pas? Je ne peux pas aimer ses manquements. Je peux aimer seulement la valeur que la personne a. Alors, si je fixe mon regard sur ce qui manque chez cette personne, c'est impossible de l'aimer. Mais si je perçois vraiment la valeur intrinsèque de cette personne, comment percevoir cette valeur? Ça, c'est une autre question. Mais pour le moment, je dis, si j'arrive à percevoir la valeur intrinsèque de cette personne, la réponse spontanée à cette reconnaissance, c'est l'amour. C'est-à-dire, une fois que je reconnais la valeur, alors j'ai le souci pour le bien-être de cette personne et j'ai l'acceptation de toutes ses limitations parce que je ne l'aime plus en dépit de ses limitations, je l'aime à cause de ce qu'il est et je vois ce qu'il est, actuellement et potentiellement, bien entendu. Donc, parfois, je formule cette chose-là en disant que l'amour est soit facile, soit impossible. Évidemment, c'est une façon un peu paradoxale de le dire, mais c'est pour nous. Si on voit la valeur de l'autre personne, l'amour, ce n'est pas difficile, c'est même difficile de ne pas aimer l'autre personne, n'est-ce pas? Il faut vraiment s'empêcher d'aimer l'autre personne si on perçoit vraiment sa valeur. La beauté attire, n'est-ce pas? Si j'ai ici un tas de poussière et un bouquet de roses, je peux vous commander d'aimer le tas de poussière plus que le bouquet de roses. Mais vous ne pouvez pas, parce que la beauté des roses attire votre amour, le tas de poussière, je peux être encore plus vulgaire que ça, mais vous comprenez, n'attire pas notre amour, n'est-ce pas? Donc l'amour, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de réponse à une perception de valeur. Maintenant, j'ai parlé des lois qui régissent l'amour. Je pense que c'est ce qu'on nomme justice. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la justice, c'est rien d'autre que les lois qui régissent l'amour. Autrement dit, je crois que l'amour ne peut pas persister en face de l'injustice. L'amour peut naître dans l'injustice, mais il ne peut pas persister, endurer face à l'injustice. Et nous voyons ça, par exemple, dans les couples qui tombent amoureux. Ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre et tout ça. Ils sont prêts à tout faire l'un pour l'autre. Ils se marient, mais au bout de quelques années, on voit qu'il y a différents qui surgissent. Souvent, c'est parce que d'une part, le mari s'occupe de son travail et puis il vient à la maison, il n'a pas d'énergie. Pour les enfants, il ne veut pas, mais ne parlez pas, j'ai eu que des problèmes aujourd'hui, ne parlez pas des problèmes avec les enfants, je ne suis pas capable d'en prendre plus, etc. Alors finalement, de part et d'autre, les membres du couple ressentent l'injustice, la femme ressent l'injustice que le mari n'endosse pas sa part de la tâche des enfants, etc. Donc, à ce moment-là, c'est pourquoi on a des thérapies, on fait toutes sortes de choses, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces thérapies, qu'est-ce qu'on fait quand on veut rétablir une relation, c'est de mettre de justice. On fait le tour de la relation, on voit où il y a des injustices, où il y a des prendre pour acquis d'une part à l'autre, et on prend des mesures pour redresser ces injustices. Et une fois qu'on redresse ces injustices, l'amour renaît, l'amour vient tout seul, n'est-ce pas? Une analogie que j'aime beaucoup est la suivante, c'est un peu implicite dans ce qu'Abdu'l-Bahá dit. Imaginez donc une barre de fer, c'est noir, c'est froid, c'est pas particulièrement beau, belle, enfin. Et cette barre de fer n'a donc pas de qualité particulièrement attractive. Mais si on polarise ces molécules, ça devient un aimant, n'est-ce pas? Et ça devient attractif. Et ça attire même des morceaux de fer, enfin, qui, eux, ne sont pas attractifs. Ça attire tout. Autrement dit, le champ magnétique est toujours là. On ne crée pas le champ magnétique, il est toujours là. On polarise les molécules de la barre de fer. Ça met la barre de fer dans une condition qu'elle devienne un instrument pour le champ magnétique. Alors, de la même façon, je pense que quand nous voulons être l'instrument de l'amour, il nous faut faire des efforts pour nous mettre dans l'état, pour polariser nos molécules, si vous voulez, pour nous mettre dans l'état où on est susceptible d'attirer cette force d'amour. L'amour est une force objective. Ce n'est pas simplement une émotion subjective, n'est-ce pas? C'est une force objective qui nous habite dans la mesure que nous avons créé en nous-mêmes les conditions pour que l'amour nous habite. Donc, voilà quelques réflexions à propos de l'amour, que c'est quand même régi par des lois. Remarquez une chose que je voulais souligner, j'ai juste mentionné en passant. L'amour ne peut pas être commandé par la volonté. Je ne peux pas me forcer d'aimer ce que je n'aime pas. L'amour, comme j'ai dit, naît de la reconnaissance de la valeur intrinsèque de quelque chose. Je ne peux pas m'ordonner à aimer quelque chose ou aimer une personne que je n'aime pas. Mais je peux utiliser ma volonté non pour commander l'amour, mais pour lutter, pour obtenir la justice, pour établir la justice. Et la justice, c'est rien d'autre que ces lois qui régissent l'amour, qui font que l'amour nous habite, qui régissent cette force qui est l'amour. Regardez bien que Abdu'l-Bahá dit lutter. Donc c'est un terme de guerre, n'est-ce pas? Lutter pour devenir les manifestations de l'amour de Dieu. Donc ça prend un effort. Mais quel effort? On ne peut pas simplement commander, moi j'aimerais aimer. Les lampes de direction divine irradiant. La lumière de l'amour et de la concorde. Donc, on lutte, c'est-à-dire on utilise notre volonté pour établir la justice. Et la justice, c'est les conditions dans lesquelles l'amour fleurit. Alors, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Là, je vais l'enregistrer parce que je n'ai pas enregistré tout à l'heure.
Amour est le secret de la sainte dispensation de Dieu, la manifestation du très miséricordieux, la source des effusions spirituelles. Amour est la douce lumière céleste, le souffle éternel du Saint-Esprit qui vivifie l'âme humaine. L'amour est la cause de la révélation divine envers l'homme, le lien vital inhérent à la réalité des choses en harmonie avec la création divine. L'amour est le seul moyen de procurer la félicité véritable en ce monde et dans l'autre. L'amour est la lumière qui nous guide à travers les ténèbres, le vivant lien qui unit Dieu à l'homme et fait progresser toute âme illuminée. L'amour est la plus grande loi qui régit ce puissant et céleste cycle, l'unique pouvoir qui relie les divers éléments de ce monde matériel, la force magnétique suprême qui dirige les mouvements des sphères dans les célestes royaumes. L'amour révèle, avec une puissance infaillible et illimitée, les mystères latents de l'univers. L'amour est l'esprit de vie qui anime le corps embelli de l'humanité. Il est la cause de la civilisation véritable en ce monde mortel Et il dispense une gloire impérissable sur toute race et toute nation aux nobles idéaux. Tout peuple auquel est accordée la faveur divine sera infailliblement magnifié et exalté par l'assemblée céleste, par la cohorte des anges et les habitants du royaume d'Abha. Et tout peuple qui détourne son cœur de cet amour divin, la révélation du miséricordieux, errera douloureusement, sera la proie du désespoir et sera totalement détruit. Il sera privé, deviendra semblable aux plus viles créatures terrestres, victimes de la déchéance, lutter pour devenir les manifestations de l'amour de Dieu, la lampe de direction divine irradiant parmi les enfants de la terre, la lumière de l'amour et de la concorde. Bénis soient les révélateurs de cette glorieuse lumière.